J'ai beaucoup de joie d'apporter le message ce matin. Voilà. C'est mieux qu'un cette joie, ce bonheur de partager, de communiquer ce que Dieu a mis dans nos vies. Puis le Seigneur, il veut qu'on le serve avec joie, de toute manière. Et c'est ce qui a été dit d'ailleurs dans ce chant, l'invitation au Seigneur de venir voir dans quel état d'esprit je suis, qu'il vienne sonder nos vies. Je crois que ça plaît au Seigneur chaque fois que nous voulons lui dire « sois bienvenu dans notre cœur et dans notre vie ». C'est un petit peu ce paradoxe, c'est-à-dire que Dieu est tout-puissant, notre frère l'a rappelé tout à l'heure, même l'univers ne peut le contenir, ça a été rappelé. Et pourtant, il s'est limité dans le fait que pour pouvoir habiter dans nos vies, dans nos cœurs, il veut qu'on lui ouvre la porte. Il pourrait s'imposer. Il pourrait tout faire. Et pourtant, c'est vrai que la grosse difficulté qu'il s'est permise, entre guillemets, c'est effectivement que nous puissions, nous, avoir ce désir dans notre cœur, comme cela a été chanté, qu'il vienne régner dans nos cœurs et dans notre vie. On va faire une première lecture ensemble dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 3. Voilà, pour ceux qui prennent des notes, on va essayer de lire quelques textes ensemble. Et puis, si j'oublie pas, les versets que je citerai, je vous donnerai la référence. Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 8, verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 1er. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Ici, comme à des enfants en Christ, il faut considérer des bébés spirituels comme des nourrissons. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Verset 6, « j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Verset 9, « car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Amen. L'apôtre Paul, en comparant la croissance spirituelle à un jardin, celui qui plante, celui qui arrose, la plante qui grandit, en comparant la croissance spirituelle à un jardin, l'apôtre Paul nous montre très clairement deux dimensions. La part de Dieu, c'est Dieu qui fait croître. Et d'un autre côté, la part de l'homme, il plante, il arrose, il sème. On peut se donner toutes les peines dans l'œuvre de Dieu, tel un agriculteur qui va s'appliquer à labourer, à préparer le terrain, qui va mettre beaucoup d'énergie, arroser avec soin. Si Dieu ne fait pas croître la semence, rien ne se produira. Ça ne sert à rien d'essayer de tirer sur la plante pour la faire grandir, au risque de la casser. Mais de même, il y a aussi la part de l'homme. Il y a la part du chrétien de planter, d'arroser. Beaucoup d'images autour du jardin, de nettoyer. Pour ceux qui font du jardinage, vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'il n'y a pas que la plante qu'on a semée qui pousse. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et si nous ne le faisons pas, cette semence, eh bien, elle ne pourra pas croître. ou alors elle va dépérir. Il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Alors je précise quand même quelque chose d'important, c'est que Dieu peut tout faire sans nous. L'arrosage, tout, vous inquiétez pas. S'il y a un homme, une femme dans une île lointaine, Dieu peut tout faire dans sa vie. Il peut témoigner de son fils Jésus par des visions. Il n'est limité par rien. Dieu peut tout faire sans nous. Ça, c'est évident. Par contre, l'inverse n'est pas possible. Nous serons toujours dépendants de l'action de Dieu dans nos vies. Alors, le titre de mon message ce matin se trouve au verset 9. C'est celui-ci, « Être ouvrier avec Dieu ». Être ouvrier avec Dieu. Alors, quand on traite ce message, en général, moi je sais que je le fais personnellement, on met l'accent sur notre travail. Peut-être que de suite vous vous interpellez, voilà, il va nous enseigner sur tout ce que nous devrons faire, l'œuvre que le Seigneur nous invite à accomplir. Eh bien, ce matin, on va mettre un accent particulier, non pas sur notre travail, mais sur le travail du Seigneur. En effet, c'est cette collaboration, on l'appellera ainsi ce matin, entre Dieu et le chrétien qui est fondamentale. Ouvrier dans la moisson, oui, mais ouvrier avec Dieu. Je peux être engagé à fond dans l'œuvre de Dieu, je peux même, selon toute apparence, être dans les voies de Dieu, accomplir ses desseins et ses projets dans ma vie. On peut voir cela peut-être au milieu du peuple de Dieu. Si Dieu ne travaille pas avec moi, tout cela est vain, inutile, voire peut-être, nous le verrons si nous avons le temps dans la conclusion, voire peut-être même parfois nuisible et destructeur à l'œuvre de Dieu. Jésus a été très sévère à l'égard de ceux qui ont beaucoup œuvré sans se soucier de la présence de Dieu à leur côté. Jésus a dit ceci, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal, dans Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Être ouvrier, engagé dans l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose que l'on rappelle souvent ici du haut de l'estrade, mais ouvrier avec le Seigneur. Et vous allez voir que c'est toute la différence des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous laisser juste trois pensées importantes sur ce thème-là. Ces trois pensées seront le canevas, les trois plans de notre message ce matin. Être ouvrier avec Dieu signifie en premier lieu, et c'est pour moi la base, on va y rester longtemps, être ouvrier avec Dieu signifie que Dieu peut travailler en nous. Alors, et ce sera la deuxième partie, Dieu peut travailler au travers de nous. Et on terminera par cette troisième partie, Dieu alors peut travailler pour sa gloire. L'apôtre Paul l'a dit dans le texte que nous avons lu, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, quelle que soit l'implication. Ce qui est important, c'est l'œuvre que Dieu accomplit au travers de nos modestes vies. Ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, nous l'avons lu au verset 7. Alors, dans un premier temps, voyons cette pensée. Alors, je vais y rester un petit moment. Ne vous inquiétez pas, les deux autres parties, je les ferai plus courtement. Parce que c'était pour moi aussi la pensée maîtresse pour nous ce matin, la première partie, oui, être ouvrier avec Dieu signifie que Dieu peut travailler en nous. Vous savez, quand Jésus a été tenté dans le désert, À un moment donné, le Seigneur a pris position et a dit au diable, « Tu adoreras et tu serviras. » Et avant de servir et d'être engagé pour le Seigneur, l'important c'est la vie intérieure, ce que nous sommes véritablement. Avant le faire, ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre être. Et comme l'a été chanté, c'est vrai que c'est important pour nous d'inviter le Seigneur Jésus à venir dans notre vie. Avant le faire, c'est l'être. Tu l'adoreras et tu le serviras. Je crois qu'il y a un grand malentendu parmi les chrétiens au sujet de la nécessité de changer tout au long de notre vie. Pourtant, le message de l'Évangile est clair, je voudrais le lire avec vous, dans Matthieu au chapitre 3. Le message de Jean-Baptiste et de Jésus était exactement le même au début de leur ministère. Matthieu chapitre 3, verset 1er, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Regardez au chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Le message de base de l'Évangile, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Ça a été encore rappelé ce matin. Si quelqu'un ce matin n'avait jamais donné son cœur au Seigneur, si quelqu'un n'avait jamais réalisé le poids du péché dans sa vie, parce que la Bible est claire, il n'y a pas un juste, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Donc si nous n'avons pas fait cet acte de se repentir, de demander pardon pour nos péchés, il est encore temps ce matin. N'endurcissez pas vos cœurs, c'est la pensée qui a été aussi rappelée à la croix du calvaire. À cet instant, vous pouvez recevoir le pardon pour vos péchés. C'est ça le message de base de l'Évangile. Repentez-vous, il n'y en a pas d'autre. Nous devons changer. Alors je veux revenir sur ce mot grec qui est derrière, un petit peu caché dans le mot repentance. Le mot repentance traduit le mot grec métanoïa. Alors méta, on connaît un peu. Méta veut dire changement. On le connaît en français par exemple dans métamorphose. Méta, changement, morphose, forme, changement de forme. Métanoïa, donc méta, changement. Et noïa, c'est nous. C'est nous, notre vie. Donc la repentance, métanoïa, c'est le changement de nous, le changement de notre être. Et la repentance, c'est véritablement un changement radical de notre être intérieur qui se détourne du mal et qui se tourne vers Dieu. C'est un changement qui doit produire des fruits. Regardez au chapitre 3, verset 8. Jean-Baptiste dira ceci, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » C'est une transformation, c'est une action dans notre vie qui doit être visible. Notre nouvelle vie, elle n'a rien à voir avec notre ancienne vie. En tout cas, il doit en être ainsi dans le cadre d'une conversion authentique. Si ce n'est pas le cas, on peut se remettre en question, effectivement, sur oui ou non, j'ai vécu une véritable repentance. Je le dis entre parenthèses, même dans notre vie, on peut être amené à se repentir à d'autres moments, on peut s'être éloigné de Dieu, on peut même, après avoir bien commencé, un jour de notre vie, s'être rebellé contre Dieu, être devenu un opposant à Dieu. Qu'importe, nous pouvons revenir à la croix du calvaire. Tant que la porte de la grâce est ouverte, nous pouvons. Mais il n'y a qu'une seule voie. Ça sera par la repentance. Ça ne sera pas par la sympathie avec les communautés évangéliques. Ça n'a rien à voir du tout. Si au pied de la croix, je reconnais la dissolution de ma vie et je demande pardon. C'est ça le message de l'Évangile. Et il ne peut changer jusqu'au jour où le Seigneur reviendra. Mais lorsque nous naissons à la vie nouvelle, c'est l'action de Dieu dans notre vie, nous sommes comme des bébés spirituels. L'apôtre Paul a parlé tout à l'heure de ses enfants, de ses nourrissons. Il disait que c'était dommage parce qu'il était obligé de les considérer encore comme tels, alors qu'ils auraient dû devenir des adultes. Cela signifie que nous avons besoin de grandir. Oui, la repentance nous a amenés à la nouvelle naissance. Je fais référence à toute cette rencontre de Jésus avec Nicodème, où le Seigneur Jésus éclaire. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est l'action de Dieu, la nouvelle vie dans l'homme. Mais cette transformation, et c'est là peut-être la confusion, c'est un processus qui va durer tout au long de notre vie chrétienne. C'est peut-être là qu'il y a une confusion dans le cœur du croyant. C'est vrai que notre vie n'a plus rien à voir du moment où je me suis repenti, du moment où j'ai commencé à marcher, mais je suis au début un bébé spirituel. Et je dois tout au long de ma vie considérer que j'ai besoin d'être changé, d'être transformé, pour tout au long de ma vie, non pas arriver, mais tendre vers la stature parfaite de Christ. Il y a la confusion parmi les chrétiens parfois de croire qu'ils n'ont plus besoin de changer. Si vous voulez me mettre mal à l'aise, dites-moi, eh bien ça c'est de mon caractère, j'ai toujours été comme ça et je ne changerai jamais. Nous devons vivre les paroles de ce chant, Seigneur, change-moi. Rends-moi comme toi. Je veux être un serviteur. Seigneur, je voudrais que tu me transformes et me rendes comme toi. Oui, tout comme toi. Nous ne pouvons pas être ouvriers avec Dieu si nous ne sommes pas décidés à changer en laissant le Seigneur travailler au plus profond de notre être. Que nous ayons 2 semaines de conversion, que nous ayons 1 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'importe, nous devons être déterminés à laisser le Seigneur travailler et changer, transformer nos vies. Que d'échecs. Dans la Bible même, nous voyons de nombreux exemples d'hommes qui ont négligé le fait de devoir être façonnés par le Seigneur. Il suffit de voir le témoignage de Joseph, par exemple, dans l'Ancien Testament. Ce jeune homme qui était, disons-le, un peu le chouchou du papa et qui se vante les visions, tout ce que Dieu met dans ce jeune cœur, que dans des épreuves, au milieu d'un peuple hostile, une barrière de la langue, des cultures, des religions complètement différentes que ce qu'il avait pu connaître. Mais dans ces quelques années, il va être formé, il va apprendre l'humilité, il va apprendre la patience dans les épreuves. Il sera formé pour être un instrument béni entre les mains de Dieu. Vous voyez aussi le témoignage de David. David, choisi comme roi pour conduire le peuple d'Israël, très jeune. Et pourtant, il faudra attendre de nombreuses années. Il devra fuir l'hostilité de Saül. Et dans ces moments-là, David apprendra à compter sur la grâce de Dieu, sur le secours de l'Éternel, tel que nous le voyons dans ses nombreux psaumes. Et il renoncera à régler les problèmes par lui-même, en comptant inexorablement sur la puissance de Dieu. Le temps manque ce matin, mais vous parlez aussi de Moïse. Moïse, il a compris à un moment donné l'appel qui était sur sa vie, et il a voulu un petit peu travailler sans Dieu, être ouvrier sans Dieu. Il est écrit dans l'Écriture ceci: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Acte 7, verset 22. Moïse a commis une grande erreur en essayant d'accomplir le plan de Dieu sans Dieu. Dieu l'amènera dans une école prestigieuse, 40 ans dans le désert. Eh oui, vous savez, nous on apprend pareil. Il y apprendra à considérer que son plus gros problème, c'était Moïse, à considérer ses propres faiblesses, ses défauts, pour être rendu capable un jour de supporter la charge du peuple, de pouvoir le conduire tel qu'il sera amené à le faire. Cette transformation a été telle que ce Moïse sûr de lui 40 ans précédemment dira ceci, quand Dieu va l'appeler à nouveau, il dira ceci, Moïse dit à Dieu, qui suis-je ? Qui suis-je ? Quelle transformation ! Quel changement ! Que personne ne dise, ou alors disez-le vraiment que je ne l'entende pas, c'est mon caractère, j'ai toujours été comme ça, je ne changerai jamais. Nous avons le devoir, la responsabilité de voir se développer dans nos vies le fruit de l'Esprit. Vous voulez que je vous le rappelle ce que c'est le fruit de l'Esprit ? Ce qui doit se manifester pleinement dans nos vies lorsque nous grandissons véritablement spirituel. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, verset 22. À moins que vous soyez parvenus à cette stature parfaite du fruit de l'Esprit, soyez convaincus que nous avons besoin d'être changés et transformés. Je vous en supplie ce matin de la part du Seigneur. Si vous voulez être ouvrier avec Dieu, soyez prêt à changer et à laisser le Seigneur travailler en vous comme il veut. Alors je sais, quelqu'un va me dire, je ne peux pas y arriver. Et je lui dirai, tu as raison. Ça vous plaît ? Bon. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, l'Esprit de Dieu peut le faire. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de venir dans la présence du Seigneur. Méditer sa parole, être là, à ses pieds, dans un coin peut-être reculé de votre maison, seul dans sa présence. Et vous verrez que dans ces moments-là, Dieu lui-même va transformer vos vies, à tel point que c'est les autres qui verront la transformation, selon ce beau verset de l'Écriture que je vous cite, « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Amen. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Je laisse là cette première partie, mais je l'avais vraiment beaucoup sur le cœur. Pour être ouvrier avec Dieu, eh bien, cela signifie que Dieu peut travailler en nous. Alléluia. Alors, nous pouvons arriver dans cette deuxième partie. Alors, Dieu peut travailler au travers de nous. Et être ouvrier avec Dieu, je vous l'avais dit en introduction, je parlerai plus du travail du Seigneur ce matin, mais être ouvrier avec Dieu, c'est voir Dieu travailler avec nous. Et je peux vous dire que lorsque cette collaboration fonctionne, la différence est phénoménale. Nous le voyons très clairement dans les Écritures, dans le livre des Actes, les apôtres et les disciples dans les premiers temps de l'Église primitive ont vécu ces choses-là. Et nous aussi, on a envie de les vivre. Alléluia. Ces hommes-là ont été changés. Ces hommes-là ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et ils avaient avec eux, qui les accompagnait, le Dieu vivant et vrai. On lit dans Marc au chapitre 16, être ouvrier avec Dieu, c'est Dieu qui travaille au travers de nous. Marc chapitre 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils obéissent. Et qu'est-ce qui est écrit après ? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Être ouvrier avec Dieu signifie que c'est Dieu qui peut travailler au travers de nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Hébreux chapitre 2, verset 3. Même si nous bénissons le Seigneur pour toute l'œuvre que le Seigneur a déjà accomplie dans nos vies, dans nos propres vies, dans nos familles, au sein de nos communautés, dans notre assemblée, je crois qu'il est tout à fait normal de soupirer à voir Dieu travailler encore plus au milieu de nous, au travers de nos vies. Nous soupirons, et on ne peut pas faire autrement, nous soupirons après de puissantes conversions dans la ville dans laquelle nous vivons. Quel désert, quelle misère spirituelle. Comment être indifférent? Il est normal pour nous de soupirer à ce qu'un grand nombre d'âmes se tourne vers le Seigneur Jésus. Il a besoin de nous pour cela. Il a besoin de nous. Nous voulons vivre vraiment ce qui se vivait dans le livre des Actes. On peut lire quelques versets dans Actes chapitre 14, verset 20. Le lendemain, Paul partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait. Être ouvrier avec Dieu signifie que lorsque Dieu a pu travailler dans nos vies, lorsqu'il a pu changer, transformer ce qui avait besoin d'être changé, oui, Dieu peut travailler au travers de nos vies. Et quelle différence ! Quelle différence ! Regardez Acte 15, verset 4. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait. Amen. 15, verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen. Vous savez, les boiteux spirituels sont en grand nombre autour de nous et Dieu compte sur nous pour que nous puissions communiquer la foi autour de nous, que ce soit par notre témoignage, par la parole qui est proclamée. Qu'importe le moyen, nous avons besoin que nos vies soient utiles pour susciter la foi autour de nous. Ne bénissez-vous pas des hommes ou des femmes qui vous ont amené à la foi par leur témoignage, leur vie consacrée. Et certains, on ne peut même pas y penser parce qu'ils ont prié pour nous, intercédé. On ne les connaît peut-être pas. Nous aussi, à notre tour. dans ce désert spirituel dans lequel nous vivons. Nous voulons que ces morts, ces boîtes spirituelles remarchent par la puissance de Dieu. J'arrive à ma troisième partie. Être ouvrier avec Dieu signifie, oui, que Dieu peut travailler en nous, première partie. Alors, Dieu peut travailler au travers de nous, comme nous l'avons vu dans le livre des Actes. Et alors aussi, c'est une dimension importante, Dieu travaille pour sa gloire. Dieu travaille pour sa gloire. Les hommes, vous savez, puis ils n'ont pas changé. Ils sont plus disposés à glorifier les hommes, les communautés, les organisations religieuses, plutôt que Dieu. Et là aussi, nous avons une responsabilité à faire en sorte que toute l'œuvre bénie où Dieu nous accompagne, toute la gloire en revienne à lui. C'est un sujet important parce que je crois que Dieu, parfois, n'a pas pu agir au travers de nos vies comme il l'aurait voulu, parce qu'il savait le piège derrière de la gloire qui allait plutôt retourner sur l'homme, sur des communautés. Vous savez, parfois, le piège, il est là, il y a un réveil spirituel, et parfois, on pointe du doigt d'autres communautés par rapport à d'autres. C'est peut-être léger, on peut avoir des appréciations. Vous savez, dès qu'on tourne un petit peu dans le jugement, on s'élève un petit peu par rapport aux autres. Et vous savez que le Seigneur ne supporte pas ces dimensions d'orgueil qu'il peut y avoir dans notre vie. Et plus nous serons efficaces entre ces mêmes, plus le Seigneur va véritablement travailler, plus il peut se passer des choses surprenantes. Dieu travaille pour sa gloire. On va lire ensemble un texte dans Acte 14, verset 8. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Entre parenthèses, nous pouvons prendre la dimension un peu spirituelle de tous ces boiteux, comme je disais tout à l'heure, spirituels autour de nous. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sont sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Voyez les hommes ? Voilà. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre du Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes. Et il voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Verset 14, les apôtres. Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements. Et ils se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous emportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Regardez verset 18, « À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice ?» Comme je le disais tout à l'heure, les hommes sont beaucoup plus disposés à glorifier les hommes. On peut le comprendre d'une certaine manière, c'est la partie visible. L'homme qui parle, l'homme qui impose des mains, le malade qui est guéri. Qu'est-ce qui se passe après ? Donner à ceux qui sont spectateurs de ces événements, la possibilité de comprendre que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la puissance, mais il est un instrument béni entre les mains de Dieu. Et cela, ça peut se passer pour une communauté. Vous savez, des fois, on met un petit peu... certains ont plus que... On est tous des hommes de la même nature. ce qui va faire la différence, c'est la puissance de Dieu qui peut opérer, qui peut œuvrer ou non au travers de nos vies. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons des hommes qui ont été changés. Nous voyons des hommes qui ont été transformés. Alors, prenez juste une petite parenthèse. Que Pierre, vous rappelez Pierre comment il était sûr de lui. Ah oui, moi, prêt à mourir. Vous savez le reniement de tout ce qui s'est passé. Pierre avait besoin encore d'être façonné, changé. Vous le voyez le jour de la Pentecôte, hein, comment toutes ces âmes ont été bouleversées par la prédication de Pierre, l'efficacité parce que Dieu était avec lui à ce moment-là. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons des hommes qui ont été changés, transformés. Ils collaborent avec Dieu. Dieu travaille avec eux. Mais nous voyons aussi des hommes d'une parfaite humilité, ne cherchant jamais leur gloire propre, mais soucieux, je le souligne, mais ils étaient soucieux que la gloire revienne à Dieu. Dieu travaille toujours pour sa gloire. C'est un piège pour beaucoup d'orienter peut-être plus sur l'homme ou sur l'organisation quelconque que sur le Dieu vivant et vrai. Que nous puissions dire, que je puisse dire ce matin, mais qui suis-je comme Moïse? Mais qui suis-je ce matin, moi, pour vous apporter le message divin? Je suis un homme de la même nature que vous. Qui sont-ils tous ces hommes dont la Bible témoigne qu'ils étaient sans instruction? Ces personnes modestes qui ont bouleversé le monde. Mais par l'attitude de leur cœur, une attitude modeste et humble, Dieu a pu les utiliser pour glorifier son nom. L'apôtre Paul est formel, il dit ceci, « Cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance, elle vient de Dieu et pas de nous. » Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Je conclue ce message. C'est le Seigneur qui bâtit l'Église. Il l'a dit, je bâtirai l'Église. On peut pas sauver une seule âme. On ne peut pas sauver. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Il est écrit dans l'Écriture, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés dans Actes 2, verset 47. Mais pour autant, notre rôle, comme je vous l'ai dit, il est fondamental. Aussi pour que cette bonne nouvelle se répande. Dieu, qui n'a pas de limite, c'est contraire à une limite, c'est un mystère pour nous. Je ne peux pas l'expliquer. Mais il y a des choses qu'il ne veut pas faire sans nous. Ça, c'est... Voilà, je ne peux pas vous l'expliquer. Cette collaboration entre Dieu et les chrétiens, elle est fondamentale. Ne faisons jamais sans lui. Il y a ce psaume qui dit ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Psaume 127, verset 1er. Je suis un peu perturbé parce que je vois le décalage entre le... On va lire un dernier texte ensemble, 1 Corinthiens 3, verset 3. En fait, on revient à 1 Corinthiens 3, pardon. Je m'étais arrêté intentionnellement au verset 9. On va lire juste les versets suivants pour conclure. 1 Corinthiens chapitre 3, nous nous étions arrêtés au verset 9. 1 Corinthiens 3, relisons le verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Plusieurs œuvres, plusieurs types d'œuvres. Il y a une catégorie, nous le voyons au verset 17, en terminant, et je le disais tout à l'heure au début de ce message, travailler sans Dieu peut nous amener parfois, non seulement à faire des œuvres inutiles, mais voire parfois des œuvres destructrices dans l'œuvre de Dieu. Et nous le lisons, c'est le Seigneur qui le rappelle, il y a pour ces personnes-là une œuvre de destruction, Dieu le détruira. Il y a aussi une autre catégorie, donc de toutes ces œuvres qu'on avait vues au verset 15. Il est dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui sera sauvé comme au travers du feu. C'est tout ce qui est représenté par, vous savez, le bois, le foie, le chaume, tout ça qui ne va pas perdurer quand cela passera au travers du feu. On peut parler d'œuvres inutiles. Tout ce que nous avons fait n'a servi à rien, n'a pas été destructeur, mais n'a pas été non plus utile. Et il y a ces œuvres que nous voyons au verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un subsiste, sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est ce qui est bâti sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans un aspect aussi communauté, à vivre ensemble ces choses, pour que non seulement nous puissions prendre conscience que nous avons besoin d'être engagés dans l'œuvre de Dieu, mais engagés d'une manière particulière, engagés avec le Seigneur.